Libre Radio, la station debout. www.libradio.org.
Nous sommes à la Bibliothèque du Peuple ce dimanche 10 décembre 2017. Et aujourd'hui, eh bien, nous recevons Selva. Bienvenue à toi, Selva.
Merci.
On te reçoit parce que tu es de métier bibliothécaire et que nous sommes toujours un petit peu à la recherche de pistes pour pouvoir, d'une certaine manière, classifier nos bouquins, qu'ils le sont déjà partiellement. Mais voilà, ils le sont de manière un petit peu autodidacte et un petit peu informelle, pourrait-on dire. Enfin, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles pistes pour essayer d'augmenter notre organisation, d'une part, et puis d'être le mieux par rapport aux personnes qui viennent à la bibliothèque, de rendre le livre le plus disponible possible. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit question-réponse en deux temps. Une première partie où je te demanderai d'où vient cette volonté de faire une carrière professionnelle dans ce domaine-là, la bibliothèque. D'où t'es venue cette idée-là? Qu'en est-il, où en es-tu dans justement cette carrière? Et puis ensuite, une partie où on parlerait plus de la manière dont on s'organise ici. Et à ce moment-là, tu nous dirais si, selon toi, il y aurait des petites choses à réinventer ou des choses, disons, à changer. Est-ce que ça te convient comme ça?
Ouais, ça me va très bien.
D'accord. Alors on y va. Donc tu es bibliothécaire. Est-ce que ça fait déjà, pour te situer un petit peu, depuis combien de temps es-tu bibliothécaire?
Alors, je suis bibliothécaire depuis 5 ans. J'ai été diplômée il y a 5 ans maintenant et j'ai eu la chance de tout de suite travailler. Donc,
ok, voilà. Et ça nécessite, donc depuis 5 ans, tu as commencé à la bibliothèque des Paquis, mm-hmm. et tu y es toujours.
Oui.
C'est ça, d'accord. Qu'est-ce que ça implique de devenir bibliothécaire? On fait une école et cette école-là, combien de temps prend-elle?
Alors en fait, il y a deux voies. Il y a la première voie, alors, qui a un titre très pompeux, qu'on dit la voie royale, où en fait, on peut faire d'abord un apprentissage, qui est un apprentissage, un CFC d'agent en information documentaire, qui à l'époque était seulement sur Lausanne, mais maintenant est également sur Genève. Et puis, avec ce CFC et aujourd'hui une maturité, on peut rentrer à la haute école de gestion, qui a du coup une filière information documentaire. On peut, si on a seulement une maturité, rentrer directement à la haute école de gestion dans cette filière avec la nécessité de faire un stage quand même au préalable hein, pour savoir ben, déjà un petit peu. Parce qu'information documentaire, c'est toujours très vaste, on ne sait pas trop de quoi on parle. Mm-hmm. Donc c'est aussi important de savoir concrètement ce que ça signifie, et puis ben, si ça plaît, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'en ayant fait un apprentissage avant, ce qui fut le cas pour moi, ben, ça a été plus simple après à l'école aussi, mais il y avait des cours où ben, forcément j'avais déjà vu et j'étais déjà plus à l'aise. Mm-hmm. Mais sinon, on peut tout à fait seulement faire la haute école de gestion, qui est en 3 ans, et à la fin, on a donc un bachelor en sciences de l'information.
Ok. Quelles sont les matières que l'on enseigne dans cette école-là? Quelles sont les matières, disons, nécessaires à justement à devenir bibliothécaire?
Alors, c'est très vaste. Il faut aussi savoir qu'en 5 ans, de ce que j'ai pu entendre des stagiaires qui sont venus et puis d'avoir rencontré des élèves qui y sont maintenant, le programme a beaucoup évolué. C'est aussi parce que c'est un métier qui change beaucoup hein, ces dernières années. Hein. Mais voilà, en fait, il y a tout ce qui est vraiment bibliothéconomique. Donc, le catalogage des livres, l'indexation, le classement, vraiment toutes ces choses qui sont inhérentes à la gestion d'une bibliothèque. Après, maintenant, il y a aussi tout un aspect très informatique, parce que base de données. Alors c'était pas mon fort, hein, ce domaine-là, ouais. Mais voilà, qui permet en fait d'être après bibliothécaire système, donc vraiment plutôt tout ce qui est gestion de logiciels libres, vraiment en rapport fort avec Internet surtout.
Ouais, d'accord. Après, donc il faut quand même être à l'aise, disons, en termes d'informatique ou de...
Oui.
Tous ces logiciels-là, il faut quand même avoir une certaine affinité.
Ouais, alors on a des cours de base de programmation, de sites web, de choses comme ça, mais effectivement après C'était en tout cas en troisième année, il y avait des options qui permettaient vraiment, si on est plus là-dedans, de se spécialiser. Mais c'est vrai que les personnes qui allaient là-dedans avaient déjà des affinités et peut-être plus de facilité avec.
Et puis je me dis qu'il y a tout le temps peut-être des formations continues, parce que comme tu l'as dit, ces logiciels changent peut-être, évoluent. Du coup, est-ce que ça c'est déjà prévu au moment où on vous forme? On vous dit, bah, vous verrez, quand vous serez, durant votre carrière de bibliothécaire, eh bien, vous serez amené à apprendre de nouvelles choses parce que eh bien, voilà, les supports changent, le livre informatique arrive, ou il se transforme, tout ça, tout ça.
Alors oui, de toute façon, on continue tout le temps à se former. Et puis, alors le monde des bibliothèques paraît peut-être de l'extérieur très calme, mais en fait, il ne l'est pas du tout. Il y a beaucoup de petites révolutions. Bah, typiquement, alors je ne vais pas trop en parler parce que je ne suis pas au cœur du sujet, mais il y a le réseau RERO, qui est en fait un réseau qui englobe plusieurs bibliothèques de Suisse. Et ben, il y a eu une sorte de scission. Le canton de Vaud a décidé de se retirer. Donc, bah, typiquement, ça veut dire qu'ils doivent trouver un nouveau logiciel. Enfin, voilà, c'est des choses politiques, des choses après,
effectivement. Mais qui ont des conséquences.
Voilà. Et puis, ben, les personnes qui travaillaient avant sur Hero, ben, vont devoir, en fait, migrer toutes leurs données sur un nouveau système. Il va falloir se former à ce système. Ouais. Donc, oui, on est tout le temps dans la formation.
Ouais, d'accord. Revenons-en à ces matières. Donc, il y a des matières comme ça qui... Enfin, continue de nous dire un petit peu.
Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a aussi tout un aspect... communication et marketing, qui n'est pas le plus important, mais qu'on doit quand même connaître, ne serait-ce que pour faire la promotion de sa bibliothèque, de ce qu'on y fait. Et puis, c'est aussi une réalité, hein, que les bibliothèques ont de moins en moins de public, et pourtant leur importance est quand même... on remet encore en cause aujourd'hui leur importance, alors qu'elles ont vraiment leur place dans la vie d'une ville. Ça, c'est des choses typiquement qu'on parle à l'école. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ça remonte, hein. Alors, c'est des pages et des pages et des pages de cours différents. Après, on a aussi beaucoup de mandats. En fait, dès la première année, on est vraiment mis dans la pratique directe, où on réalise des mandats pour des personnes. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui, à la fin, va être utile et va déjà être mis en application. Par exemple, nous, en première année, on avait fait un mandat pour l'AGBD, donc c'est l'Association Genevoise des bibliothécaires et documentalistes, qui voulait... ils voulaient faire une refonte de leur site internet. D'accord. Et nous, on a créé une grille qui permettait de noter les différents sites. On a été voir tous les autres sites des associations pour voir quelles étaient les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Et puis à la fin, on leur a donné un produit qui leur permettait de se baser dessus pour mettre à jour leur site web. On va se dire, ça peut être intéressant, ça peut-être qu'on faisait, mais en fait, ça ne nous apportait rien. Voilà, donc ça, c'était notre travail. Chaque groupe dans l'école, enfin dans la classe, on fait des choses totalement différentes. Pour dire, en première année, on peut déjà être impliqué dans des projets qui sont presque professionnels, en fait.
D'accord. Et puis donc, ça dure 3 années. Et à la fin de ces 3 années-là, on a automatiquement une place dans une bibliothèque, ou alors après, justement, eh bien, c'est l'aventure. On est un petit peu lâché dans la nature, et puis c'est à celui qui aura l'opportunité, la chance ou quoi.
C'est ça. C'est vraiment... d'où l'importance aussi de ces mandats pendant ces 3 années. Ça nous permet aussi d'avoir un contact avec des professionnels. Y a aussi le travail de bachelor qu'on fait en 3e année, qui peut aussi permettre
d'orienter.
Ou après, une fois qu'on cherche du travail, ces personnes-là ont travaillé avec nous, donc elles savent qu'on est...
C'est un travail de bachelor, donc ça veut dire... Le tien, par exemple, sur quel sujet abordait-il?
Alors le mien, je l'ai fait pour la bibliothèque de l'OMS. Et en fait, c'était une étude sur l'utilisation d'une base de données par les pays africains subsahariens francophones. Donc c'était très précis. Fait, il faut savoir que dans le monde de l'édition scientifique, il y a des monopoles. Et pour avoir accès à l'information scientifique, c'est des abonnements qui coûtent des milliers de francs par année. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'institutions dans le monde, dans les pays en voie de développement, qui ne peuvent pas se permettre de payer ces abonnements-là, donc qui n'ont pas accès à cette production scientifique. Et si on n'a pas accès à la production scientifique, on ne peut pas avancer. Donc en fait, l'OMS, la bibliothèque, a mis en place un système qui permet à ces institutions d'avoir accès gratuitement, ou alors avec un forfait, à ces, ben, à ces bases de données scientifiques. Et ils se rendaient compte qu'énormément d'institutions faisaient la demande et qu'ils recevaient les accès, mais qu'après, ils ne l'utilisaient pas. Et en fait, mon travail, c'était de comprendre quelles étaient les barrières que rencontraient ces institutions pour ne pas utiliser cette base de données qui était vraiment très importante,
oui,
et qu'ils avaient accès gratuitement pour la plupart.
Oui.
Donc, alors le problème de l'accès... on va dire de l'électricité.
Ah,
voilà, par exemple, là, c'était en Afrique. Okay. Ça, c'était connu,
oui,
mais ils voulaient aller connaître peut-être d'autres barrières. Donc voilà, mon travail, en fait, ça a été de mettre en place une méthodologie, après d'aller trouver, d'aller préparer un questionnaire. Enfin, après, voilà, c'était une enquête statistique, et puis de ressortir analyser ces chiffres, beaucoup aussi de lecture, et puis de finalement après arriver en sortant trois points que la bibliothèque de l'OMS pouvait mettre en place pour améliorer l'utilisation de cette base de données.
D'accord. Donc on comprend que c'est quand même un sujet très technique que tu as produit là. Est-ce à dire que la plupart des bachelors sont de ce type-là, ou y en a-t-il d'autres qui concernent plus précisément de la littérature? Cette question va avec celle qui arrive. Quand on est bibliothécaire, est-ce qu'on est automatiquement des grandes lectrices, des grands lecteurs, ou pas automatiquement? Parce qu'il y a plein d'autres aspects qui touchent à cette profession.
Alors, je vais répondre à la première. Donc, comme pour tous les travaux, ben, les travaux de bachelor sont vraiment très vastes et très libres. Moi, j'ai choisi de partir... c'est moi qui suis allée chercher mon mandant. Parce que ben voilà, c'était des thématiques, l'Afrique, vu que j'avais déjà été sur un autre projet de bibliothèque, ça me parlait. Mais je crois qu'il y en a qui ont fait sur je crois une association de vélo qui a mis une bibliothèque en place. Il y en a beaucoup qui travaillent. Alors, les bibliothèques municipales de Genève sont aussi des mandants qui peuvent, l'apparition du livre électronique. Ça peut vraiment être... Et puis quelqu'un peut arriver avec sa propre idée. Moi, j'aimerais faire un travail là-dessus, de recherche. Et puis, il faut trouver après un prof qui est d'accord de suivre. Mais disons que c'est vraiment très large. Après, concernant le fait que les bibliothécaires sont-ils des lecteurs, hein,
des lecteurs ou pas?
Alors, forcément que ça aide, d'aimer lire, pour faire ce métier. Après, c'est pas qu'un cliché.
Ouais.
Faut savoir que quand on dit à quelqu'un qu'on est bibliothécaire, la première chose qu'il va nous dire, c'est « Ah, tu dois beaucoup aimer lire ». Donc, alors, pour moi, à la longue, c'est presque énervant, et puis c'est très réducteur, en fait, du métier, parce que, concrètement, on n'est pas payé pour lire. Enfin...
Oui, tout à fait, non, c'est pas la même chose. Classifier, mettre à disposition de quoi lire, c'est pas lire.
C'est pas lire, on peut être... on peut ne pas forcément aimer lire et être bibliothécaire. Après, ça dépend dans quel domaine on va travailler. Si on est en lecture publique, je pense que c'est peut-être mieux de pouvoir conseiller des livres qu'on a lus. Après, en bibliothèque universitaire, si on n'a pas lu toutes les thèses sur un domaine bien précis en médecine ou quoi que ce soit... C'est pas grave. Donc c'est vrai que ça va dépendre après dans quel côté on va travailler, que ce soit en bibliothèque publique, universitaire, en archive.
Ouais.
Donc moi j'avais des camarades de classe qui à part les BD ne lisaient rien.
D'accord. Donc c'est pas obligatoire.
C'est pas obligatoire. C'est quand même recommandé. C'est un petit plus,
ouais,
mais
okay.
C'est pas obligatoire.
Ouais. Quels sont les quels sont les corps de métier que tu fréquentes le plus? Quand on est bibliothécaire, est-ce que, par exemple, on est proche d'archiviste, proche de documentaliste, ou alors proche de gens qui s'occupent d'événements culturels, de programmation culturelle, ou proche de libraires? Quels sont les corps de métier que l'on touche beaucoup lorsque l'on est bibliothécaire?
Okay. Alors, il faut savoir que déjà, le diplôme, le bachelor en sciences de l'information, fait qu'on est à la fois bibliothécaire, archiviste et documentaliste.
C'est un diplôme qui contient les trois fonctions.
Exactement.
D'accord.
Donc après, c'est selon nos affinités et où on trouve du travail qui fait qu'on est soit bibliothécaire, documentaliste ou archiviste. Pareil, en fait, tout dépend de l'endroit où on travaille. On va être en relation avec forcément des autres métiers. On est très en lien aussi avec l'informatique, les informaticiens. Dans la mesure où ce sont souvent eux qui créent les logiciels avec lesquels on va travailler, ben c'est bien qu'il y ait quand même une transversalité et puis qu'on se comprenne. Alors, c'est pas toujours évident. Mais voilà, typiquement, après, ben, je peux prendre mon exemple en bibliothèque publique. Ben, moi, je suis très impliquée dans la médiation culturelle. Mmh. Donc, ben, je travaille avec beaucoup de partenaires différents. Ben, des institutions ben, propres au quartier auquel je travaille, mais qu'est-ce qu'on a d'autre, ben, oui, il y a aussi ben, beaucoup le tissu social, hein, mm-hmm. parce que ben, voilà, une bibliothèque publique s'inscrit dans la vie d'un quartier, et puis ben, forcément on a les mêmes intérêts en fait, ouais. que les autres institutions du quartier. Les libraires, ben, évidemment, parce qu'à un moment, dans ce qu'on appelle la chaîne du livre, ben, il y a le moment où on achète le livre. Mmh. Donc forcément, on est en lien avec les libraires. À savoir qu'en ville de Genève, en tout cas aux bibliothèques municipales, eh ben, le but, c'est vraiment d'arroser toutes les librairies. Hein.
Donc, d'accord, donc pas... vous achetez systématiquement des librairies, enfin, un petit
voilà.
peu
toutes les librairies, c'est ça. C'est pas une librairie voilà. qui a un contrat et puis tous les...
Il n'y a pas un monopole ou quoi.
Non. Non, et puis ben, beaucoup de librairies en fait, dépendent aussi des bibliothèques.
Les petites librairies indépendantes, pour elles, c'est vraiment un apport
tout à fait, ouais.
fondamental.
Après, on a aussi ben, beaucoup ben, les petites bibliothèques spécialisées. Mm-hmm. Qui, alors, en bibliothèque publique, on n'est pas trop scientifique, donc on essaie de proposer des documents. Alors, voilà, enfin quand même vulgarisé, mais parfois on fait quand même aussi un appel à ces petites librairies très pointues qui ben voilà aussi dépendent des bibliothèques.
Ok, les distributeurs de livres, ça un petit peu quand même, parce qu'il y a le service d'acquisition qui s'en mêle, ou c'est, voilà, ou c'est un peu annexe, c'est vraiment juste là, c'est vraiment un côté juste administratif.
Alors là, je pourrais pas te répondre.
D'accord, ouais, c'était comme ça.
Mais bah comme en fait les commandes partent directement aux libraires, bah c'est les libraires plutôt qui
voilà,
travaillent en
ouais.
fait avec
oui, avec les éditeurs et le,
d'accord, ça, dans
le
ouais.
bien sûr tu l'as dit tout à l'heure, mais je voulais en savoir un petit peu plus concernant les mises en réseau. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est d'une mode récente, ou est-ce que ça, c'est de tout temps que des bibliothèques essayent d'échanger entre elles et puis de se regrouper pour proposer peut-être une collection encore plus large, ou pour d'autres intérêts, d'autres raisons? Voilà, est-ce qu'il y a des mises en réseau de plus en plus nombreuses, et quelles sont-elles ces mises en réseau principales que tu connaîtrais, par exemple? Je ne sais pas si, par exemple, les bibliothèques universitaires sont en réseau dans toute la Suisse, ou pourquoi pas même dans toute l'Europe, ou quoi.
Alors oui, il y a énormément de projets en fait, de mise en réseau, qu'elles soient ben, au niveau d'une ville, d'un pays, ou même après européen, même peut-être pas mondial, mais oui, effectivement, il y a cette volonté en fait de regrouper le savoir et puis de pouvoir le diffuser de façon la plus large possible.
Large
et puis
possible,
en fait,
d'accord.
Après, on part beaucoup dans... souvent, c'est des bases de données qui sont assez ben, spécialisées. Ou après, avant, je parlais des données scientifiques. Ben maintenant, il y a tout un mouvement aussi open access. Donc, mm-hmm. il y a aussi ben, ces associations qui se mettent ensemble pour proposer ces documents en libre ouais. accès. Il y a des projets européens. Ben, en Suisse, il y a RERO, qui est le réseau des bibliothèques universitaires. Alors, bon, ben, maintenant, vous, on n'en fait plus partie. Je ne pourrais pas dire quels autres cantons. Voilà, je ne suis pas spécialiste RERO.
Ouais.
Mais typiquement, en ville de Genève aussi, ben, on a les bibliothèques municipales, forcément, on travaille en réseau, on
d'accord.
a un catalogue commun.
Oui.
Mais il y a aussi les bibliothèques universitaires qui ont leur réseau en fait, au niveau de Genève, qui après est intégré dans RERO. Donc on
d'accord.
travaille en fait, sur plusieurs
Il y a plusieurs niveaux.
Plusieurs niveaux.
D'accord, j'ai compris, oui. Comment toi tu observes la numérisation galopante des documents. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des exemples comme Europeana, il y en a un autre dont le nom m'échappe, mais il y a aussi Google qui fait ça, par exemple, donc qui numérise énormément de documents et qui, alors pour certains, sont mis à disposition, pour d'autres, sont mis à disposition contre une contrepartie. De ton point de vue, ou du point de vue de Selva, la bibliothécaire, est-ce que ça, c'est plutôt sympa? Est-ce que c'est dangereux parce qu'on privatise peut-être des choses qui devraient être du sens commun, ou en tout cas accessibles à toutes et à tous? Voilà, comment est-ce que tu... Est-ce que tu t'es déjà fait une idée de ça?
Alors, oui, c'est des choses typiquement qu'on a disserté même dessus à l'école. Alors, ça remonte il y a longtemps, mais alors, moi... Personnellement, il y a des projets que je trouve absolument fantastiques dans la numérisation. C'est la numérisation au niveau patrimonial. Il y a des grands projets qui se font aussi à la BGE qui permettent en fait de numériser des choses auxquelles on n'aurait pas forcément accès, où il faudrait demander une autorisation, aller avec ses petits gants blancs, ouvrir le livre. Ouais. Et puis là, en fait, du coup, ça met un savoir qui est patrimonial et qui finalement appartient à tous. Donc moi, ça, c'est des projets que je soutiens et qui me parle beaucoup et que je trouve même important. Après, Google Books, forcément, c'est pas quelque chose auquel... je suis pas une fervente militante contre, mais voilà, je trouve dangereux, en fait. À savoir que des projets de numérisation, en fait, coûtent très cher aussi. Et puis que forcément Google arrive dans les grandes universités, dans les grandes bibliothèques, il faut leur dire nous pour tel coup on peut vous faire ça. Donc c'est vrai que je peux comprendre que parfois on peut se retrouver un peu en porte-à-faux entre deux choses en se disant c'est soit peut-être que je pourrais jamais numériser ma bibliothèque parce que j'aurais jamais les fonds, et puis du coup on n'est plus trop dans l'air du temps parce que faut savoir aussi que ça se fait de plus en plus. Et puis d'un autre côté, est-ce que je forme ma bibliothèque à Google, prends mon âme, j'ai pas envie de dire que Google c'est le diable, mais voilà, moi c'est pas quelque chose que je trouve forcément bien, en fait.
D'accord, donc soyons attentifs à comment ça se fait, s'il y avait un message à faire passer, ce serait celui-là. Ok, juste encore une question concernant les défis à venir des bibliothèques. Alors, le livre numérique, là aussi pour toi, est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est positif mais avec des conditions? Ou est-ce que c'est clairement plutôt négatif?
Alors, je veux dire, je me suis acheté ma première liseuse il n'y a pas longtemps. Oui. J'étais tout à fait contre, juste parce que je me faisais taire et que j'aime le papier. Moi, j'avais aucun argument. Et puis, alors, je dois dire que... J'ai pas retourné ma veste, mais j'ai vraiment vu une... Enfin, voilà, parce que moi, je pars quand même souvent en voyage, et puis j'avais toujours un livre avec moi, et puis c'est vrai que j'ai 5000 livres dans ma liseuse, elle pèse 500 grammes. Ouais. Et puis, en fait, on annonce depuis des années la mort du papier, la mort du livre, c'est toujours pas le cas.
Donc, il y aura plutôt une complémentarité qui s'installerait.
Moi, je trouve qu'il faut pas... il faut pas diaboliser, et puis qu'en fait ça peut être très complémentaire. Et puis alors à Genève on est quand même assez en retard sur l'offre numérique comparé à la France. Après moi, en tout cas au niveau de notre bibliothèque, on a très peu de demandes. C'est pas quelque chose de vraiment commun en fait d'aller à la bibliothèque et de s'attendre à avoir des livres numériques. Après c'est une offre qui est assez récente, et puis du coup peut-être les gens savent pas encore, mais moi je pense que ça peut tout à fait être complémentaire et que l'un ne va pas tuer l'autre.
D'accord. Les autres formats de livres, comme le livre parlé, également, il y a toute une série de documents qui sont disponibles dans ces formats-là, dans les bibliothèques.
Livre lu, Oui. Alors, ça, c'est... On essaye aussi, c'est pour un public qui peut-être tout simplement pas
lire.
Un voyant,
ou autre chose. Ouais.
Voilà, donc c'est quelque chose... Alors, ça a forcément moins de succès que d'autres livres, mais c'est indispensable en bibliothèque parce qu'il faut qu'on puisse vraiment... toucher tous les publics. On a aussi des livres en grand caractère, pour que les personnes malvoyantes puissent aussi lire. Donc tous les autres formats. En fait, la bibliothèque, maintenant, on a l'impression qu'on va y trouver que des livres, mais on y trouve beaucoup plus de choses maintenant.
Retrouve les podcasts des émissions sur Libradio, www.libradio.org.